Vous dites merde tous les soirs.
Ben oui, c'est une tradition.
Oui, merde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20e numéro de Microcoulisses. Aujourd'hui, nous restons au théâtre de l'ENS pour parler de Un cœur à aimer toute la terre ou Le procès de Don Juan, dernier spectacle programmé pour cette année au théâtre Cantor. Je reçois donc aujourd'hui quasiment toute l'équipe sauf Antoine qui joue Don Juan, si j'ai bien compris. Donc je vais vous demander d'abord de vous présenter, de dire votre prénom et le rôle que vous avez eu dans ce projet.
Alors, moi c'est Lola. Donc j'incarne Marion, qui est un personnage plutôt symbolique dans la pièce, et j'ai participé à l'écriture. Voilà.
Moi c'est Camille, et j'incarne le personnage de la comtesse de la Roche-Piquet, et c'est un personnage un peu moins symbolique. Voilà.
Bonjour, moi c'est Chloé et j'incarne le personnage de la religieuse et j'ai aussi participé au processus d'écriture, même si de manière générale il s'est fait en collectif. Enfin, voilà, on a commencé quand même. Il y a des figures peut-être qui ont écrit plus, mais après on a toujours discuté tous ensemble.
Bonjour, je m'appelle Charles, je suis Gamarelle dans la pièce, le valet et accessoirement l'avocat de Don Juan.
Bonjour, moi c'est Andrea, du coup j'incarne le rôle de Angélique dans la pièce et j'ai plutôt un petit peu œuvré pour la mise en scène. Voilà.
Bonjour, moi c'est Juliette et dans la pièce je suis Dominique de Cassin qui est un personnage relativement désagréable au début et puis qui évolue par la suite.
Bonjour, moi je suis Sidonie et je joue la duchesse de Vaubricourt et c'est moi qui organise le procès dans ma demeure de Normandie.
D'accord, donc il s'agit de procès, on parle de Don Juan, on a des comtesses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pièce et de la façon dont vous l'avez adaptée, enfin, comment vous avez travaillé toutes ensemble et tous ensemble?
Alors en fait, si on s'est intéressé au personnage de Don Juan, c'est parce que c'est vraiment une figure mythique de notre littérature qu'on étudie énormément à l'école et dans les universités, et à chaque fois de manière assez améliorative, c'est-à-dire que c'est le symbole de la laïcité, du libertinage, celui qui va contre les dogmes religieux, qui s'émancipe, voilà, figure de l'émancipation, et en fait on ne parle absolument jamais de son traitement des femmes, ce qu'il inflige aux femmes, et pourtant c'est absolument très très clair dans toutes les multiples réécritures de Don Juan, c'est-à-dire que il les manipule, il leur ment, il les violente physiquement et psychologiquement, il y a aussi clairement des viols. Et ça, c'était un vrai problème pour nous, et on voulait le dire. Et au départ, on s'était inspiré de la pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt qui s'appelle La Nuit de Valogne, précisément parce qu'il fait un procès, ou il essaye d'intenter un procès à la figure de Don Juan. Et on l'a complètement réécrite parce que ce procès ne nous satisfaisait pas, tout simplement parce que Don Juan est acquitté à la fin, pour des motifs tout à fait discutables. Tout simplement parce que Don Juan serait hypothétiquement homosexuel et ça justifierait la manière dont il s'est comporté envers les femmes parce qu'il aurait été de femme en femme, de conquête en conquête, comme dans la quête d'un amour inassouvi, puisque les femmes ne pouvaient par nature pas le satisfaire. Donc voilà, c'est extrêmement problématique. Et aussi parce que dans cette pièce, les femmes se trompent de motifs d'inculpation. Elles n'arrivent pas à sortir des schémas sexistes et elles essayent de le condamner à cause de son infidélité et de son inconstance, et elles ne disent jamais les mots, c'est-à-dire en quoi Don Juan a véritablement été violent et en quoi il mérite d'être condamné juridiquement.
Et donc vous avez dit, vous avez parlé d'écriture, chacune a un peu fait de l'écriture, de la mise en scène. Andrea, pour toi, comment ça s'est passé cette répartition au sein du groupe? Enfin, pardon, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes la compagnie de la Botte d'Or. Enfin, je ne l'ai pas dit, tout de même, il fallait le dire. Et donc comment vous êtes répartis les rôles, je veux dire les rôles de personnages, mais aussi les rôles d'écriture, de mise en scène au sein de votre groupe?
Alors, au sein de notre groupe, c'est un peu parti avec un désir... moi, j'avais le désir de travailler autour de ce mythe-là. Donc, j'ai un petit peu engrangé le processus de création. Et après, les autres m'ont suivi. Un petit peu beaucoup. Et ensuite, les autres m'ont suivi. Donc, Lola et Chloé m'ont majoritairement suivi sur l'écriture. On a eu un gros travail de discussion entre nous, de lecture aussi, et de réécriture. Toujours nourri par une parole collective avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment attaché à discuter entre nous de nos différents vécus, de nos différentes sensibilités, de nos expériences, pour vraiment enrichir notre écriture de sensible aussi.
Ça a été un gros travail de recherche en fait au préalable, ce travail d'écriture. C'était à la fois des échanges avec toute l'équipe tout le temps pendant les répétitions, mais c'était aussi des lectures, des partages de podcasts, des discussions autour du féminisme. Voilà, donc ça a été un gros travail de recherche qui a permis en fait après d'engranger le processus d'écriture qui a été qui a été collectif du coup.
Ouais, et en fait cette réécriture du coup elle est faite personnellement, c'est-à-dire qu'on a écrit nous des textes inédits et on s'est aussi servi d'autres textes, des textes féministes et des textes d'autrices, peut-être qu'on peut en dire un mot.
Mm-hmm. Ouais, bien sûr.
On s'est servi d'Annie Ernaux par exemple.
Oui, Mémoire de fille.
Qui nous paraissait vraiment, c'est une écriture vraiment très fine parce qu'elle est précisément dans l'ambiguïté qu'on cherche au début, c'est-à-dire quand elle raconte dans cette œuvre des choses qu'elle a vécues personnellement, une oppression patriarcale, et en même temps elle restitue ce vécu avec beaucoup de sensibilité et elle a une sorte déjà de distance critique. Voilà, il y a une sorte de tension entre les deux et au début de la pièce on reste dans cette tension jusqu'à normalement être davantage dans l'émancipation au fur et à mesure de la pièce. Et sinon, on s'est servi d'autres textes.
Mm-hmm. Oui, Rebecca Solnit, voilà, Ces hommes qui m'expliquent la vie. Mm-hmm. Audrey Lorde, de Le visage de la colère. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? En fait, après, on en a lu beaucoup qui nous ont servi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a fait aussi tout un cumul de lectures qui nous ont vraiment inspirés ensuite pour vraiment orienter notre propos sur la question du désir, le fait d'être désiré, les stéréotypes, etc.
On a beaucoup travaillé sur la question de la culture du viol. Ça a été le gros sujet, en fait, de travail pour cette pièce.
Exactement.
Et alors, du coup, ces textes vous ont inspiré, j'imagine, pour la dramaturgie, mais est-ce que concrètement vous avez du coup inséré des morceaux de ces textes dans le spectacle? C'est comme ça que ça se passe?
Oui.
D'accord.
Donc il y a des textes qui nous ont inspirés pour nourrir vraiment nos réflexions en profondeur, et ensuite des textes qu'on a véritablement utilisés dans la pièce brute, de manière brute.
Oui, oui, voilà.
Est-ce que ce qui peut être intéressant aussi de préciser, c'est qu'au-delà de ces textes biographiques ou théoriques, il y a aussi des paroles de réseaux sociaux, de forums, des paroles qui sont réutilisées plus ou moins telles quelles, notamment au moment du procès, donc des choses qu'on va entendre pendant la pièce qui ne sont pas du fait de notre imagination débridée, mais qui sont des réelles paroles, notamment d'hommes.
D'accord. Oui. Et du coup, ça a vraiment, ça crée un certain lien avec le public, j'imagine. Et est-ce que, comme c'est quand même un procès que vous mettez en scène, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau du dispositif que vous avez travaillé ou une esthétique particulière dont vous aimeriez parler pour nous dire un peu ce qu'on va voir en fait quand on va arriver dans le théâtre Cantor jeudi soir ou vendredi soir ou samedi soir, pour un peu teaser et donner envie mais sans trop en dire.
Eh bien écoutez, vous pouvez tout à fait venir et faire partie, pourquoi pas, de l'audience de ce procès. Mais je ne m'en dirai pas plus.
Non,
déjà bien assez.
Petit point trigger warning. Notre pièce traite explicitement de questions de relations toxiques, de violences faites aux femmes, d'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel, de viol. Et je pense que c'est quand même important que le public le sache avant de rentrer dans la salle.
Oui, parce que même si c'est dit parfois avec beaucoup d'humour, il y a aussi d'autres moments graves. Et dans tous les cas, on parle de ça. Donc je pense en effet que c'est important de le préciser.
D'accord, très bien. Si on veut voir tout ça, ça se joue le jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 au Théâtre Cantor tous les jours à 20h. Vous trouverez les informations pour réserver sur la page de l'émission. Merci à toutes et tous d'être venus nous parler aujourd'hui. C'était très, très intéressant d'entendre ce que vous aviez à nous dire sur cette pièce. Donc voilà, ce sera sans doute la dernière émission pour Transistor cette année avec donc Microcoulisses. L'émission était aujourd'hui réalisée par Juliette Meul et merci à Félix Barancy qui se trouvait en régie, et on se retrouve très vite l'année prochaine pour de nouvelles pièces.